Donc le texte du jour, c'est dans le chapitre de Marc, dans l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 1, les versets 21 à 28. Ensuite, ils se rendirent à Capharnaüm. Il s'agit de Jésus et de ses premiers disciples. Et aussitôt, le jour du sabbat, Jésus étant entré dans la synagogue, se mit à y enseigner. On était frappé de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait, à ce moment même, dans la synagogue, un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais Jésus le reprit sévèrement et lui dit : Tais-toi et sors de cet homme. Alors l'esprit impur, le secouant avec violence et poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous dans l'étonnement, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : Qu'est-ce que ceci ? C'est un enseignement tout nouveau ? Celui-là commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ? Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la contrée environnante en Galilée. Comment ce texte vous interpelle-t-il ? Et tout d'abord, déjà, vous interpelle-t-il ? Ce récit situé dans le premier chapitre de l'évangile de Marc peut sembler très anodin à la toute première fois où on en prend connaissance. Et je peux vous dire que ça a été mon cas. Je lis ce texte et puis on me raconte un petit événement et puis un jour... Je me suis dit, je vais quand même essayer de voir ce que me raconte l'évangile de Marc. Et en lisant le premier chapitre, je me suis dit, mais ce premier chapitre, mais c'est comme si c'était déjà tout un résumé de l'évangile de Marc. Ce chapitre 1, c'est une introduction. On nous dit qui est Jésus, on nous dit qu'il enseigne, on nous dit qu'il guérit les démons. Enfin, je me suis dit, mais c'est rien que le premier chapitre, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors ce récit qui suit l'appel des premiers disciples invite le lecteur à s'étonner avec la foule et à s'interroger sur Jésus et pour nous peut-être à commencer à nous questionner sur la signification donnée au titre christologique. Et ce d'autant plus que les premiers mots de Marc sont commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors quand il a dit ça, ça paraît tellement évident que c'est vrai que sur le texte que je viens de lire, on se pose plus la question. C'est Jésus, fils de Dieu, donc c'est normal qu'il ait autorité et qu'il chasse les démons. Mais sommes-nous encore capables d'étonnement à l'écoute de l'enseignement de Jésus ? Ou savons-nous tout déjà à la manière de l'esprit impur ? Alors vous remarquerez que l'évangile de Marc se distingue par son style direct. Il ne s'encombre pas de détails et il va droit à l'essentiel. Donc le récit, il est très court, ça tient en quelques phrases. Alors quand Jésus a commencé à parcourir la Galilée, il a proclamé « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. » Et ça, c'est déjà en Marc au verset 15. Alors, vous voyez déjà entre le verset 1 et le verset 15, c'est déjà, on a bien situé. Et donc, Jésus, il s'inscrivait bien dans l'attente du peuple juif, dans l'attente d'un Messie. Et Marc le note. Il note cet enracinement de Jésus dans le monde juif. Le cadre spatio-temporel, il est déjà défini. Un village de Galilée, un jour de sabbat, à la synagogue. Donc, rien de surprenant pour les Juifs. Tout est déjà... Et la synagogue, qui est un lieu de rassemblement pour prier et écouter la lecture et l'explication des Écritures. Donc ça aussi, ça paraît normal que Jésus prenne la parole et se mette à enseigner un jour de sabbat dans la synagogue, parce que ça, c'était courant qu'on donne la parole à des personnes qui, habituellement, ne disaient pas forcément dans cette synagogue-là. Mais Marc a-t-il voulu concentrer l'intérêt du lecteur sur l'enseignement de Jésus? Les mots « enseigner » et « enseignement » reviennent 4 fois en quelques lignes. Et alors Marc, il nous rapporte très très peu d'éléments sur ce que dit Jésus. Il ne donne aucune indication sur le contenu. Et pour nous lecteurs, ce manque de contenu de l'enseignement de Jésus, il peut paraître très frustrant, parce qu'on aurait dit, j'aurais bien aimé savoir ce que Jésus a dit. On aurait attendu un discours. Et là, non, rien de tel. Et à mon avis, vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec moi, c'est beaucoup mieux pour nous. L'enseignement de Jésus est d'abord une parole qui interpelle, qui suscite une réaction, soit positive, soit négative. Et en tout état de cause, elle ne laisse pas indifférent. Et le texte nous donne les deux réactions. Tout d'abord celle de l'auditoire, et ensuite celle de l'homme possédé d'un esprit impur. Et les témoins de la scène y réagissent 2 fois par rapport à l'enseignement de Jésus. Tout d'abord, au verset 22, ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Puis au verset 27, tous furent effrayés, ils débattaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Un enseignement nouveau avec autorité. Alors, nos différentes traductions du texte grec, elles ne marquent pas explicitement la différence entre les deux verbes utilisés par Marc pour souligner la graduation des réactions des personnes présentes. Le premier verbe, il souligne l'impression faite sur l'auditoire. Et le deuxième, il exprime un sentiment beaucoup plus fort et marque une notion de crainte. Et ici, je dirais presque une notion de crainte devant une manifestation de puissance. Puisque, simplement par sa parole, Jésus fait sortir le démon. On a donc dans ces versets plusieurs caractéristiques de l'enseignement de Jésus. Et sur le verset 22, cet enseignement, il est différent de celui des scribes, il a de l'autorité et il est nouveau. Alors le texte nous donne une première idée, mais une première idée en creux de la manière d'enseigner Jésus, non pas comme les scribes. Donc, vous savez bien que les scribes étaient les spécialistes et les interprètes officiels et institutionnellement autorisés de la loi écrite et de la loi orale. Et ils faisaient référence à la tradition de leurs prédécesseurs et des anciens. Et de ce fait, ils avaient une autorité incontestable, mais d'une autorité attribuée qui leur est extérieure. comme moi aujourd'hui. Je suis simplement autorisée par le conseil presbytéral à faire une prédication. Mais en tant que personne, je n'ai aucune autorité. Ça, il faut que vous soyez bien, bien conscient parce que c'est important. Et dans cette comparaison, on peut donc en déduire que Jésus, lui, ne bénéficie pas d'une autorité institutionnelle attribuée. Ce qu'il dit ne vient pas seulement de la tradition. Alors, il y a peut-être une partie qui vient de la tradition, mais il parle aussi de sa propre compréhension des Écritures, de la profondeur de son être. Il enseigne donc avec une autorité personnelle. Et puis, ce n'est pas dit dans ce texte, mais dans d'autres textes, Jésus ne dit que ce qu'il a reçu de son Père. Donc, c'est donc au cœur même de cet enseignement de Jésus que Marc note une rupture, une nouveauté. À l'enseignement des scribes vient se substituer celui de Jésus. Il y a comme un avant et un après. Alors déjà, le lecteur sait que Jésus proclamait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous à l'évangile. » Alors, on peut peut-être aussi interpréter l'enseignement de Jésus comme l'expression du vrai sens spirituel des Écritures, de ce qui est essentiel, sans s'encombrer de prescriptions secondaires. Donc voilà, ça c'était la première réaction de l'auditoire. Maintenant j'en viens à la réaction de l'homme possédé d'un esprit impur. Alors l'enseignement de Jésus, il est brusquement interrompu par l'intervention brutale de cet homme qui avait un esprit impur, et il se met à apostropher Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas indifférent non plus à la présence de Jésus. Et puis, avant que Jésus ne parle, apparemment le texte ne dit rien, mais l'homme devait être relativement calme. L'enseignement des scribes ne devait pas prendre gêné. Et donc cet esprit impur, il se sent agressé par la présence et l'enseignement de Jésus. C'est lui qui interpelle Jésus dans une démarche agressive. Il lui est hostile. Alors cet homme, en fait, il est entravé par un esprit qui s'oppose à la parole de Dieu. La tournure grecque traduite par un esprit impur a cette particularité d'insister sur l'incompatibilité entre un tel esprit et Dieu. Tout ce qui lui est opposé, tout ce qui fait obstacle à toute rencontre, à toute relation avec Dieu. Et donc ce face-à-face avec le Saint de Dieu, il lui est complètement intolérable. Ce monde spirituel est plus sensible à la présence de l'Esprit Saint que le monde matériel. Et puis, cet Esprit Saint, enfin non, pardon, excuse-moi, oh quelle erreur, j'aurais bien fait de me taire. L'Esprit impur parle à la fois en nous et en je. Donc cette utilisation du pluriel et du singulier montre une confusion et fait bien comprendre que c'est pas l'homme, parce que, je sais pas vous, mais moi je parle jamais en nous. Quand je parle, je dis « je » d'une façon générale. Donc ce « nous », est-ce qu'il renvoie à toutes les forces du refus qui s'oppose à Dieu? Et le « je », quant à lui, il semble, ici dans ce texte, exprimer un refus catégorique de la relation à l'autre. Donc, les propos, ils comportent quatre affirmations. Qu'y a-t-il de commun entre nous? Jésus le Nazaréen, es-tu venu pour notre perte et le sein de Dieu. La première, littéralement, mot à mot, croit à nous et à toi. Autrement dit, qu'y a-t-il de commun entre nous? Ça, ça traduit une compatibilité totale. C'est brutal. Entre toi et moi, il n'y a rien. Rien. Rien à voir. Et c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament pour repousser une relation. Puis quand il dit Jésus le Nazaréen, il dit l'identité terrestre de Jésus. Il le situe, parce que peut-être que dans la synagogue, il y avait peut-être des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Donc, il dit aussi qui. Est-il venu pour notre perte? Ça indique que la présence de Jésus, pour l'esprit impur, tout de suite, c'est une source de crainte. Il se sent menacé. Parce que si vous ne vous sentez pas menacé, vous n'allez pas dire, es-tu venu pour notre perte? Et après, il dit le sein de Dieu. Et c'est une sainteté qui vient de Dieu, qui révèle Dieu. Et dans cette expression, le sein de Dieu, il y a aussi une reconnaissance d'un statut d'autorité, de puissance divine pour Jésus. Et il y a aussi un contraste voulu entre les termes esprit impur et le sein de Dieu. Cet esprit impur ne peut surtout pas admettre de ce fait la présence de Jésus comme saint de Dieu, car cela annonce l'irruption de Dieu parmi le peuple. Et si Dieu vient parmi le peuple, lui, l'esprit impur, il n'a plus rien, il n'a plus aucune autorité, il disparaît, son action, elle est foutue. Et Jésus, lui, ne répond pas à ça. Par contre, il réagit fortement. Et il donne un ordre brutal qui ne souffre pas la discussion et n'admet aucune réplique. Il lui donne un ordre double. Tais-toi et sort de cet homme. Ainsi, il met fin à l'intervention de l'esprit impur et à l'action de ce dernier. Et donc l'action du dernier, de l'esprit impur, elle est complètement anéantie. Il ne peut plus rien faire. Il est obligé de partir et il ne peut plus rien dire. La parole de Jésus, elle est efficace en elle-même. Elle fait advenir ce qu'il dit. La parole de Jésus délivre le possédé. Et dès lors, celui-là, il va pouvoir redevenir lui-même. Et puis le texte nous présente une deuxième réaction des témoins. Elle est forte, elle est émotionnelle et elle est interprétative. L'impression de crainte, de frayeur ressentie par les auditeurs provient aussi peut-être de ce que l'exorcisme a été opéré d'une manière inhabituelle. C'est-à-dire sans geste magique et par la seule parole. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de thérapeutes qui intervenaient, ou magiciens, mais ils avaient des gestes magiques. On dit, Jésus, il n'a pas de geste magique. Il n'y a que sa parole. Et puis je me suis posé la question, quelle serait aujourd'hui notre propre réaction devant un tel événement? Je vous laisse le soin de répondre pour vous-même. Ceux qui ont entendu Jésus et assisté à l'expulsion de l'esprit impur s'interrogent sur la portée de ces événements. Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau? Avec autorité? Ils commandent aux esprits impurs et ils l'obéissent? Pour les autorités, pour les contemporains de Jésus, habitués à se référer à une autorité reconnue au plan religieux, ça ne devait pas être évident. Qu'en est-il de cette parole? qu'en est-il? Et il constate que la parole, elle est puissante, elle est effective, elle obtient le résultat énoncé, et donc il y a une autorité, et puis tout est neuf, mais neuf en qualité. Il porte, Jésus, il porte une autorité qui s'impose par le lien entre la parole et l'action. Alors, par ce récit, eh ben, nous sommes nous aussi invités à une réflexion sur l'autorité. Je vous rappelle, Jésus, lui, ne se réclame d'aucune autorité, il ne se réfère à aucune institution, en fait, il n'a d'autorité que sa parole. Une parole qui vient du plus intime de sa personne. Et c'est une parole qui s'impose. Et le vrai de la parole, elle se fait reconnaître parce qu'elle touche le cœur, l'intelligence, la volonté, et qu'elle persuade ceux qui la reçoivent. Et ceux-là se rendent compte qu'elle les éclaire, qu'elle les interroge, en tout cas qu'elle a de l'effet sur eux. Et il y a donc pour nous une autorité indissociable de la parole qui est liée à notre consentement intérieur. Et la véritable autorité est celle qui permet de grandir. Jésus, lui, il est auteur de l'évangile au sens où il est responsable de sa parole. Il se porte garant de ce qu'il dit. Il l'assume pleinement. Or, il ne dit que les paroles qu'il a entendues de son Père. Alors, pour chacun d'entre nous, où se trouve donc la source de l'autorité? Est-ce l'enseignement chrétien que nous avons reçu quand nous étions petits, quand nous sommes allés à l'étude biblique, à la catéchèse, que sais-je? Est-ce les prédications ou les études bibliques écoutées? Est-ce la parole du pasteur? Je me souviens quand j'ai commencé les études d'autogéologie, la première année, il y avait un cours. Il y avait eu une phrase qui m'a interpellée parce que ça disait: la foi naît de la prédication. Enfin, c'était une phrase un peu dans ce style-là. Et ça m'a interrogée parce que je n'avais jamais entendu de prédication au sens où les réformés l'entendent. Alors je me suis dit, mais est-ce que la foi, elle ne vient que de la prédication? Donc après, je me suis posé la question sur: qu'est-ce que c'était vraiment une prédication? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons qui nous touchent et qui ne sont pas la prédication comme je suis en train de vous la faire aujourd'hui? Donc je reviens à ce que je disais. Est-ce que c'est la parole de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, qui nous interpelle au plus profond de notre être? Est-ce que c'est cela qui fait autorité pour nous? Et c'est à chacun de discerner ce qui s'impose à son propre cœur. Il s'agit aussi pour nous de croire en celui qui seul peut nous libérer de toutes les forces du mal. Et ce passage, il peut aussi nous concerner. En effet, nous sommes aussi amenés à constater que des fois, on est divisé en nous-mêmes, que nous pouvons être habités par nos propres démons, comme le désespoir, ou la culpabilité, l'orgueil, enfin, pour en citer plein. Et puis aussi, on subit les dérives de notre société, l'intolérance, le matérialisme, l'esprit de mauvaise critique et de contestation systématique. Là, je peux vous dire qu'en ce moment, on en entend. Et tout cela nous fait faire fausse route, nous éloigne de Dieu. Mais plus encore, ne sommes-nous pas atteints à certaines heures par un esprit de refus à la parole de Dieu? Oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire ça. Moi, que sais-je? Et pourtant, Jésus-Christ constitue un repère solide dans notre existence. C'est lui qui nous ramène à la vie, c'est lui qui nous conduit au pardon. Il fait tellement de choses dans notre existence. Il nous aide à retrouver le bon chemin, à espérer, à retrouver la paix du cœur, mais d'un cœur pur. Et ce texte m'a aussi interpellée parce que je me suis dit, dans les textes, là on parle d'un esprit impur, mais si on prend le texte des Béatitudes, bienheureux les cœurs purs. Donc, pur, impur, ça je m'étire dans ma tête. Marc a fait un lien entre l'enseignement donné avec autorité et la force du commandement à l'esprit impur. Ce qui fait que pour Marc, les deux facettes de l'œuvre de Jésus, la parole et l'action, sont à considérer ensemble et non séparément. L'un n'exclut pas l'autre. Et il n'y a pas à considérer l'un plus que l'autre. Dire et faire simultanément. Ressentons-nous au plus profond de nous-mêmes un consentement intérieur? L'autorité indissociable de sa parole. Mais en plus, si ce texte y met fortement en lumière l'autorité de Jésus, d'une façon non explicite, là c'est pas dit, mais pour le lecteur, il met en creux aussi l'interrogation sur l'identité de Jésus. Et la question d'une reconnaissance personnelle de Jésus dans notre vie. Ça renvoie aussi un peu à cette question où Jésus interroge les disciples en lui leur demandant « Qui suis-je pour vous ?» Se mettre à l'écoute de la parole, c'est s'engager sur un chemin qui réclame du temps. Il y a des étapes. Ça passe par des questionnements, par des silences, peut-être par des fois des cris d'indignation, de désespoir, de refus. Ça passe aussi par des remises en cause, des questionnements, des découvertes, des changements de perspective. J'ai entendu ça, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui fait autorité pour moi? Donc, chacun d'entre nous est invité à méditer les Écritures pour entendre par soi-même et non pas parce que X ou Y a dit ceci ou cela. On entend par soi-même la parole de Dieu. Chacun d'entre nous est invité à laisser cette parole toucher en soi quelque chose de très profond pour entrer dans une dynamique de croissance spirituelle. Et puis, la parole de Jésus, elle est efficace en elle-même, indépendamment, et même si, des fois, on n'en a pas conscience. Ce n'est pas toujours évident d'avoir conscience en soi-même de l'efficacité de la parole de Jésus. Et cette parole, elle nous donne un message d'amour, de paix, d'espérance, de consolation, un message pour nous faire vivre et un message pour nous donner un cœur pur.